André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité.
T'es le plus grand des belles.
Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série d'émissions avec un nouvel auteur. Il s'agit de Maurice Leblanc, romancier et créateur du fameux gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Et pour ce faire, nous sommes en compagnie de Françoise Bénard. Bonjour Françoise.
Bonjour à tous. Bonjour Philippe. Bonjour André.
Et Philippe Merlan. Bonjour Philippe.
Bonjour Françoise. Bonjour André. Bonjour à tous.
Merci de nous faire partager les textes narrant les aventures d'Arsène Lupin, héros de romans policiers imaginés par Maurice Leblanc. Arsène Lupin est un gentleman cambrioleur. Ses aventures trépidantes, comprenant délits et énigmes, sont adaptées en films et séries. Mais auparavant, quelques mots de biographie. Maurice Leblanc naît en 1864 à Rouen. Brillant élève, il s'intéresse très tôt à la littérature. Il refuse de prendre la succession de son père à la tête d'une usine de lainage. Et à l'âge de 24 ans, il quitte sa famille pour s'installer à Paris dans l'espoir d'y vivre de sa plume. Il débute en tant que journaliste en 1890. Il publie son premier recueil de récits des couples. D'autres romans suivront qui éveillent l'intérêt des écrivains de son époque, notamment Jules Renard et Alphonse Daudet, sans obtenir de succès commercial. En 1905, il écrit une œuvre de commande pour un mensuel « Je sais tout », le numéro 6, daté du 15 juillet 1905. Une nouvelle, « L'arrestation d'Arsène Lupin », la toute première aventure dans laquelle apparaît notre héros. Le récit remporte un franc succès. Le célèbre personnage du gentleman cambrioleur est né. La personnalité originale séduit immédiatement les lecteurs qui réclament la suite. 6 mois plus tard, elle arrive dans le magazine « Je sais tout » du 15 janvier 1906. « L'évasion d'Arsène Lupin » est ensuite publiée sous forme de roman. Voyageant à bord du navire « La Providence », Lupin est arrêté par le policier Ganimard. Voici un extrait de l'arrestation d'Arsène Lupin. Françoise.
Je lui dis, nous ne pouvons attendre plus longtemps. Elle s'avança, je la suivis, mais nous n'avions pas fait 10 pas, que Ganimard nous barra le passage. Eh bien quoi, m'écriai-je. Un instant, monsieur, qui vous presse? J'accompagne mademoiselle. Un instant, répéta-t-il d'une voix plus impérieuse. Il me dévisagea profondément, puis il me dit, les yeux dans les yeux, Arsène Lupin, n'est-ce pas? Non, Bernard d'Andrézy, tout simplement. Bernard d'Andrézy est mort il y a 3 ans en Macédoine. Si Bernard d'Andrézy était mort, je ne serais plus de ce monde. Et ce n'est pas le cas. Voici mes papiers. Ce sont les siens. Comment les avez-vous? C'est ce que j'aurai le plaisir de vous expliquer. Mais vous êtes fou! Arsène Lupin s'est embarqué sous le nom de R. Oui, encore un truc de vous, une fausse piste sur laquelle vous les avez lancés, là-bas. Vous êtes d'une jolie force, mon gaillard. Mais cette fois, la chance a tourné. Voyons Lupin, montrez-vous, beau joueur. J'hésitais une seconde, d'un coup sec, il me frappa sur l'avant-droit. Je poussai un cri de douleur, il avait frappé sur la blessure encore mal fermée que signalait le télégramme. Allons, il fallait se résigner. Je me tournai vers Miss Nelly, elle écoutait, livide, chancelante.
L'histoire de l'évasion commence alors qu'Arsène Lupin est emprisonné dans la prison de la Santé à Paris. Les autorités sont fières d'avoir capturé le célèbre cambrioleur, mais elles restent sur leur garde, conscientes de la réputation de Lupin pour ses évasions spectaculaires. Cette fois-ci, ils prennent toutes les précautions pour empêcher toute tentative d'évasion. Lupin est surveillé jour et nuit, isolé dans une cellule renforcée et gardé par les meilleurs policiers. Parmi les surveillants, l'inspecteur principal Ganimard. Le grand rival de Lupin prend personnellement en charge la surveillance du prisonnier. Ganimard est un homme perspicace et déterminé, bien décidé a empêché Lupin de lui échapper une nouvelle fois. Il a déjà affronté Lupin à plusieurs reprises et sait qu'aucune précaution ne peut être négligée. Malgré toutes ces mesures, Lupin reste serein. Il s'adapte parfaitement à la vie carcérale, se comportant de manière exemplaire et semblant se résigner à son sort. Pourtant, dans l'ombre, il prépare minutieusement son plan d'évasion. Le génie de Lupin réside dans sa capacité à exploiter chaque détail, à manipuler ceux qui l'entourent et à utiliser les ressources de son environnement. Lupin se lie d'amitié avec les gardiens, feignant l'ignorance et la bonne humeur. Il observe tout, des habitudes des surveillants, moindre recoin de la prison, mémorisant des informations cruciales pour son plan. Il reçoit aussi des visites d'un mystérieux avocat qui, on le comprend plus tard, est un complice venu l'informer des développements extérieurs. Ces échanges semblent innocents aux yeux des gardiens, mais ils préparent en réalité le terrain pour une évasion sophistiqué. Voici un extrait du livre du deuxième chapitre. Arsène Lupin, incarcéré, s'évade et se reconstitue prisonnier à la prison de la Santé.
L'évasion prochaine d'Arsène Lupin ne fit plus de doute pour personne. Lui-même, d'ailleurs, l'annonçait en termes catégoriques, comme le prouva sa réponse à M. Bouvier au lendemain de l'incident. Le juge, raillant son échec, il le regarda et lui dit froidement: écoutez bien ceci, monsieur, et croyez-moi sur parole, cette tentative d'évasion faisait partie de mon plan d'évasion. Je ne comprends pas, ricana le juge. Il est inutile que vous compreniez. Et comme le juge, au cours de cet interrogatoire qui parut tout au long dans les colonnes de l'Écho de France, comme le juge d'instruction revenait à son instruction, il s'écria d'un air de lassitude: mon Dieu, mais à quoi bon? Toutes ces questions n'ont aucune importance. Comment aucune importance? Mais non, puisque je n'assisterai pas à mon procès. Vous n'assisterez pas? Non, c'est une idée fixe, une décision irrévocable. Rien ne me fera transiger. Une telle assurance, les indiscrétions inexplicables qui se commettaient chaque jour, agaçaient et déconcertaient la justice. Il y avait là des secrets qu'Arsène Lupin était seul à connaître et dont la divulgation, par conséquent, ne pouvait provenir que de lui. Mais dans quel but les dévoilait-il et comment? On changea Arsène Lupin de cellule. Un soir, il descendit à l'étage inférieur. De son côté, le juge boucla son instruction et renvoya l'affaire à la chambre des mises en accusation. Ce fut le silence. Il dura 2 mois. Arsène les passa étendus sur son lit, le visage presque toujours tourné contre le mur. Ce changement de cellule semblait l'avoir abattu. Il refusa de recevoir son avocat. À peine échangeait-il quelques mots avec ses gardiens. Dans la quinzaine qui précéda son procès, il parut se ranimer. Il se plaignit du manque d'air. On le fit sortir dans la cour le matin, de très bonne heure, flanqué de 2 hommes. La curiosité publique, cependant, ne s'était pas affaiblie. Chaque jour, on avait attendu la nouvelle de son évasion. On la souhaitait presque, tellement le personnage plaisait à la foule avec sa verve, sa gaieté, sa diversité, son génie d'invention et le mystère de sa vie. Arsène Lupin devait s'évader. C'était inévitable, fatal. On s'étonnait même que cela tardât si longtemps. Tous les matins, le préfet de police demandait à son secrétaire: « Eh bien, n'est pas encore parti ?»« Non, monsieur le préfet. Ce sera donc pour demain. » Et, la veille du procès, un monsieur se présenta dans les bureaux du grand journal, demanda le collaborateur judiciaire, lui jeta sa carte au visage et s'éloigna rapidement. Sur la carte, ces mots étaient inscrits: « Arsène Lupin tient toujours ses promesses ».
À la tombée de la nuit, alors que l'heure limite approche, l'atmosphère dans la prison devint électrique. Tout le monde attend le coup d'éclat annoncé par Lupin. Midi sonne, minuit sonne. Et soudain, une agitation se fait entendre dans la prison. Dans la cellule de Lupin, les gardiens découvrent un trou béant dans le mur. Lupin a disparu, échappant à la vigilance de Ganimard et des gardiens. La nouvelle de son évasion se répand comme une traînée de poudre. Les détails de l'opération restent flous, mais il apparaît que Lupin a utilisé des complicités à l'intérieur et à l'extérieur de la prison pour creuser un tunnel et préparer sa fuite. La manière dont il a trompé la vigilance des gardiens est utilisée. Et utiliser les informations glanées pendant son séjour en prison témoigne de son génie et de sa maîtrise des situations les plus désespérées. Ganimard, humilié et furieux, réalise qu'il a été berné, une fois de plus, par le maître de l'évasion. Lupin, avec son audace habituelle, laisse derrière lui un message moqueur pour Ganimard, dans lequel il le remercie pour son hospitalité et lui promet de le revoir bientôt. Voici, extrait du troisième chapitre, le procès, dit par Philippe.
Le greffier lut l'acte d'accusation, puis le président prononça « Accusé, levez-vous. Votre nom, prénom, âge et profession. » Ne recevant pas de réponse, il répéta « Votre nom, je vous demande votre nom. » Une voix épaisse et fatiguée articula « Baudru, Désiré. » Il y eut des murmures, mais le président repartit. « Baudru, Désiré. Ah bien. Un nouvel avatar. Comme c'est à peu près le huitième nom auquel vous prétendez et qu'il est sans doute aussi imaginaire que les autres, nous nous en tiendrons, si vous le voulez bien, à celui d'Arsène Lupin sous lequel vous êtes plus avantageusement connu. » Le président consulta ses notes et reprit « Car, malgré toutes les recherches, il a été impossible de reconstituer votre identité. » Vous présentez ce cas assez original dans notre société moderne, de n'avoir point de passé. Nous savons qui vous êtes, d'où vous venez, où s'est écoulée votre enfance, bref, rien. Vous jaillissez d'un coup, il y a 3 ans, on ne sait au juste de quel milieu, pour vous révéler tout d'un coup Arsène Lupin, c'est-à-dire un composé bizarre d'intelligence et de perversion, d'immoralité et de générosité. Les données que nous avons sur vous, avant cette époque, sont plutôt des suppositions. Il est probable que le nommé Rosta, qui travailla il y a 8 ans aux côtés du prestidigitateur Dexon, n'était autre qu'Arsène Lupin. Il est probable que l'étudiant russe qui fréquenta il y a 6 ans le laboratoire du docteur Altier, à l'hôpital Saint-Louis, et qui souvent surprit le maître par l'ingéniosité de ses hypothèses sur la bactériologie et la hardiesse de ses expériences dans les maladies de peau, n'était autre que Arsène Lupin. Arsène Lupin également, le professeur de lutte japonaise qui s'établit à Paris bien avant qu'on y parlât du jiu-jitsu. Hein. Arsène Lupin, croyons-nous, le coureur cycliste qui gagna le Grand Prix de l'Exposition, toucha ses 10 000 francs et ne reparut plus. Arsène Lupin peut-être aussi celui qui sauva tant de gens pour la petite lucarne du bazar de la charité. Et les dévalisa. Et après une pause, le président conclut. Telle est cette époque qui semble n'avoir été qu'une préparation minutieuse à la lutte que vous avez entreprise contre la société. Un apprentissage méthodique où vous portiez au plus haut point votre force, votre énergie et votre adresse. Reconnaissez-vous l'exactitude de ces faits ? L'accusé s'était balancé d'une jambe sur l'autre, le dos rond, les bras inertes. Sous la lumière plus vive, on remarqua son extrême maigreur, ses joues creuses, ses pommettes étrangement saillantes, son visage couleur de terre marbré de petites plaques rouges et encadré d'une barbe inégale et rare. La prison l'avait considérablement vieilli et flétri. On ne reconnaissait plus la silhouette élégante et le jeune visage dont les journaux avaient publié si souvent le portrait sympathique. On lui dit qu'il n'avait pas entendu la question qu'on lui posait. 2 fois, elle lui fut répétée. Alors il leva les yeux, parut réfléchir, puis faisant un effort violent, murmura « Baudru, Désiré ». Le président se mit à rire. Je ne me rends pas un compte exact du système de défense que vous avez adopté, Arsène Lupin. Si c'est de jouer les imbéciles et les irresponsables, libre à vous. Mais quant à moi, j'irai droit au but sans me soucier de vos fantaisies. » Et il entra dans un détail des vols, escroqueries et faux reprochés à Lupin. Parfois, il interrogeait l'accusé. Celui-ci poussait un grognement ou ne répondait pas. Le défilé des témoins commença. Il y eut plusieurs dépositions insignifiantes, d'autres plus sérieuses, qui toutes avaient ce caractère commun de se contredire les unes les autres. Une obscurité troublante enveloppait les débats, mais l'inspecteur principal Ganimard fut introduit et l'intérêt se réveilla.
Voici un autre extrait du procès lu par Françoise.
Dès le début, toutefois, le vieux policier causa une certaine déception. Il avait l'air, non pas intimidé, on avait vu bien d'autres, mais inquiet, mal à l'aise. Plusieurs fois, il tourna les yeux vers l'accusé avec une gêne visible. Cependant, les deux mains appuyées à la barre, il racontait les incidents auxquels il avait été mêlé, sa poursuite à travers l'Europe, son arrivée en Amérique. Et l'on écoutait avec avidité, comme on écouterait le récit des plus passionnantes aventures. Mais vers la fin, ayant fait allusion à ses entretiens avec Arsène Lupin à deux reprises, il s'arrêta, distrait, indécis. Il était clair qu'une autre pensée l'obsédait. Le président lui dit « Si vous êtes souffrant, il vaudrait mieux interrompre votre témoignage. »« Non, non, seulement il se tut. » Regarda l'accusé longuement, profondément, puis il dit « Je demande l'autorisation d'examiner l'accusé de plus près. Il y a là un mystère qu'il faut que j'éclaircisse. » Il s'approcha, le considéra plus longuement encore, de toute son attention concentrée, puis il retourna là-bas. Et là, d'un ton un peu solennel, il prononça. « Monsieur le Président, j'affirme que l'homme qui est ici, en face de moi, n'est pas Arsène Lupin. » Un grand silence accueillit ces paroles. Le Président, interloqué d'abord, s'écria « Mais que dites-vous? Vous êtes fou !» L'inspecteur affirma posément. « À première vue, on peut se laisser prendre à une ressemblance qui existe, en effet, je l'avoue. Mais il suffit d'une seconde d'attention. Le nez, la bouche, les cheveux, la couleur de la peau, enfin quoi ? Ce n'est pas Arsène Lupin. Et les yeux, donc ? A-t-il jamais eu ces yeux d'alcoolique ? Voyons, voyons, expliquons-nous. Que prétendez-vous, témoin ? Ce que je sais, il aura mis en son lieu et place un pauvre diable qu'on allait condamner en son lieu et place, à moins que ce ne soit un complice. Des cris, des rires, des exclamations partaient de tous côtés dans la salle qu'agitait ce coup de théâtre inattendu. Le président fit mander le juge d'instruction, le directeur de la santé, les gardiens, et suspendu l'audience. À la reprise, M. Bouvier et le directeur, mis en présence de l'accusé, déclarèrent qu'il n'y avait, entre Arsène Lupin et cet homme, qu'une très vague similitude de faits. « Mais alors ? » s'écria le président, « qui allait cet homme ? D'où vient-il ? Comment se trouve-t-il entre les mains de la justice ?» On introduisit les deux gardiens de la santé. Contradiction stupéfiante, ils reconnurent le détenu dont ils avaient la surveillance à tour de rôle. Le président respira. Mais l'un des gardiens reprit « Oui, oui, je crois bien que c'est lui. »« Comment vous croyez ?»« Dame, je l'ai à peine vu. On me l'a livré le soir et depuis 2 mois, il reste toujours couché contre le mur. »« Mais avant ces 2 mois, avant, il n'occupait pas la cellule 24. » Le directeur de la prison précisa ce point. Nous avons changé le détenu de cellule après sa tentative d'évasion. Mais vous, monsieur le directeur, vous l'avez vu depuis 2 mois. Je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Il se tenait tranquille. Et cet homme-là n'est pas le détenu qui vous a été remis ? Non. Alors qui est-il ? Je ne saurais dire. Nous sommes donc en présence d'une substitution qui se serait effectuée il y a 2 mois. Comment l'expliquez-vous ? C'est impossible. Alors ? En désespoir de cause, le président se tourna vers l'accusé et d'une voix engageante. « Voyons, accusé, pourriez-vous m'expliquer comment et depuis quand vous êtes entre les mains de la justice ? » On eût dit que ce ton bienveillant désarmait la méfiance ou stimulait l'entendement de l'homme. Il essaya de répondre. Enfin, habilement et doucement interrogé, il réussit à rassembler quelques phrases d'où ressortait ceci. 2 mois auparavant, il avait été amené au dépôt, il y avait passé une nuit et une matinée, possesseur d'une somme de 75 centimes, il avait été relâché. Mais comme il traversait la cour, 2 gardes le prenaient par le bras et le conduisaient jusqu'à la voiture pénitentiaire. Depuis, il vivait dans la cellule 24. Pas malheureux. On y mange bien, on y dort pas mal. Aussi n'avait-il pas protesté. Tout cela paraissait vraisemblable. Au milieu des rires et d'une grande effervescence, le président renvoya l'affaire à une autre session pour supplément d'enquête.
À la fin de la nouvelle, Lupin apparaît libre et triomphant. Il a réussi une nouvelle fois à tromper ses geôliers et à détourner en dérision le système judiciaire. Par sa ruse, son intelligence et son sang-froid, Lupin prouve qu'il est sans conteste le maître de l'évasion et de la tromperie. Maurice Leblanc laisse ainsi le lecteur admiratif devant l'audace de son héros, tout en soulignant la manière dont Lupin utilise ses talents, non seulement pour échapper à la justice, mais aussi pour ridiculiser ceux qui cherchent à l'arrêter. Voici, extrait du dernier chapitre, le dénouement, lu par Philippe.
Ganimard se taisait. Cette évasion dont il se jugeait responsable n'était pas lui qui, par sa déposition sensationnelle, avait induit la justice en erreur. Cette évasion lui semblait la honte de sa carrière. Une larme roula vers sa moustache grise. « Eh mon Dieu, Ganimard, ne vous faites pas de bile. Si vous n'aviez pas parlé, je me serais arrangé pour qu'un autre parlât. Voyons, pouvais-je admettre que l'on condamna Baudru Désiré ?» Alors, murmura Ganimard, « c'était vous qui étiez là-bas, c'est vous qui êtes ici. Hein. Moi, toujours moi, uniquement moi. Mais est-ce possible ? Oh, point n'est besoin d'être sorcier. Il suffit, comme l'a dit ce brave président, de se préparer pendant une douzaine d'années pour être prêt à toutes les éventualités. Mais votre visage, vos yeux, bon, vous comprenez bien que si j'ai travaillé 18 mois à Saint-Louis avec le docteur Altier, ce n'est pas par amour de l'art. J'ai pensé que celui qui aurait un jour l'honneur de s'appeler Arsène Lupin devait se soustraire aux lois ordinaires de l'apparence et de l'identité. L'apparence, hein. Mais on l'a modifié à son gré. Telle injection hypodermique de paraffine vous boursouffle la peau juste à l'endroit choisi. L'acide pyrogallique vous transforme en mohican. Le suc de la grande Kélioude vous orne de dartres et de tumeurs du plus heureux effet. Tel procédé chimique agit sur la pousse de votre barbe et de vos cheveux, tel autre sur le son de votre voix. Joignez à cela 2 mois de dette dans la cellule numéro 24, des exercices 1000 fois répétés pour ouvrir ma bouche selon ce rictus, pour porter ma tête selon cette inclinaison et mon dos selon cette courbe. Enfin, 5 gouttes d'atropine dans les yeux pour les rendre hagards et fuyants et le tour est joué. Je ne conçois pas que les gardiens... La métamorphose a été progressive. Ils n'ont pu en remarquer l'évolution quotidienne. Mais Baudru Désiré, Baudru existe. C'est un pauvre innocent que j'ai rencontré l'an dernier et qui, vraiment, n'est pas sans offrir avec moi une certaine analogie de traits. En prévision d'une arrestation toujours possible, je l'ai mis en sûreté et je me suis appliqué à discerner dès l'abord les points de dissemblance qui nous séparaient pour les atténuer à moi autant que cela se pouvait. Mes amis lui ont fait passer une nuit au dépôt, de manière qu'il en sortit à peu près à la même heure que moi et que la coïncidence fut facile à constater. Car notez-le, il fallait qu'on retrouvât la trace de son passage, sans quoi la justice se fût demandé qui j'étais. Tandis qu'en lui offrant cet excellent Baudru, il était inévitable, vous entendez inévitable, dès qu'elle sauterait sur lui et que malgré les difficultés insurmontables d'une substitution, elle préférerait croire à la substitution plutôt que d'avouer son ignorance. Oui, en effet, murmura Ganimard. Et puis, s'écria Arsène Lupin, j'avais entre les mains un atout formidable, une carte machinée par moi dès le début, l'attente où tout le monde était de mon évasion. Et voilà bien l'erreur grossière où vous êtes tombés, vous et les autres, dans cette partie passionnante que la justice et moi nous avions engagée et dont l'enjeu était ma liberté. Vous avez supposé encore une fois que j'agissais par fanfaronnade, que j'étais grisé par mes succès ainsi qu'un blâme-bec. Moi, Arsène Lupin, une telle faiblesse. Et pas plus que dans l'affaire Cahorn, vous ne vous êtes dit... Du moment qu'Arsène Lupin crie sur les toits qu'il s'évadera, c'est qu'il a des raisons qui l'obligent à le crier. Mais sapristi, comprenez donc que pour m'évader, ça m'évader, ben il fallait que l'on crût d'avance à cette évasion, que ce fût un article de foi, une conviction absolue, une vérité éclatante comme le soleil. Et ce fut cela, de par ma volonté. Arsène Lupin s'évaderait. Arsène Lupin n'assisterait pas à son procès. Et quand vous vous êtes levé là pour dire « cet homme n'est pas Arsène Lupin », il lui était surnaturel que tout le monde ne crût pas immédiatement que je n'étais pas Arsène Lupin. Qu'une seule personne douta, qu'une seule émit cette simple restriction, Et si c'était Arsène Lupin ? À la minute même, j'étais perdu. Il suffisait de se pencher vers moi, non pas avec l'idée que je n'étais pas Arsène Lupin, comme vous l'avez fait vous et les autres, mais avec l'idée que je pouvais être Arsène Lupin. Et malgré toutes mes précautions, on me reconnaissait. Mais j'étais tranquille. Logiquement, psychologiquement, personne ne pouvait avoir cette simple petite idée. Il saisit tout à coup la main de Ganimard. « Voyons, Ganimard, avouez que 8 jours après notre entrevue dans la prison de la santé, vous m'avez attendu à 4 heures chez vous, comme je vous en avais prié. Et votre voiture pénitentiaire, dit Ganimard, évitant de répondre. Du bluff, ce sont mes amis qui ont rafistolé et substitué cette ancienne voiture hors d'usage et qui voulaient tenter le coup. Mais je le savais impraticable, sans un concours de circonstances exceptionnelles. Seulement, j'ai trouvé utile de parachever cette tentative d'évasion et de lui donner la plus grande publicité. Une première évasion audacieusement combinée donnée à la seconde à la valeur d'une évasion réalisée d'avance. Alors de sorte que le cigare creusé par moi, ainsi que le couteau, et les billets écrits par moi, et la mystérieuse correspondance, et elle et moi, nous ne faisons qu'un. J'ai toutes les écritures à volonté. Ganimard réfléchit un instant et objecta. Comment se peut-il qu'au service d'anthropométrie, quand on a pris l'affiche de Baudru, on ne se soit pas aperçu qu'elle coïncidait avec celle d'Arsène Lupin ? Ben, l'affiche d'Arsène Lupin n'existe pas. Allons donc.
L'évasion d'Arsène Lupin est un exemple parfait du style de Maurice Leblanc, qui mêle suspense, humour et critique sociale. Lupin y apparaît non pas simplement comme un criminel, mais comme un esprit supérieur, un artiste de l'évasion qui joue avec les règles pour prouver son ingéniosité. La nouvelle illustre la fascination pour ce personnage complexe, gentleman et escroc, et qui défie constamment l'ordre établi tout en séduisant le lecteur par son élégance et son panache. D'abord agacé devant tant de succès, Maurice Leblanc décide de tuer son personnage dans 813 en 1910. Mais devant la déception de ses lecteurs, il le ressuscite dans Le Bouchon de Cristal pendant plus de 30 ans. Maurice Leblanc composera ainsi 17 romans et 5 pièces de théâtre, ainsi que de nombreuses nouvelles mettant en scène ce héros charismatique et espiègle. Les plus célèbres sont sans doute Arsène Lupin contre Herlock Sholmes, L'Aiguille Creuse et La Comtesse Cagliostro, dont nous reparlerons dans les prochaines émissions. Les romans sont traduits dans de nombreuses langues et adaptés au cinéma et à la télévision. Durant toute sa carrière d'écrivain, Maurice Leblanc publiera des romans psychologiques, des contes ou des romans policiers qui ne rencontreront jamais le succès des aventures d'Arsène Lupin. À la fin des années 30, sa santé se dégrade et il décède en 1941. Merci Françoise, merci Philippe et à très bientôt pour d'autres aventures d'Arsène Lupin. Notre émission est maintenant terminée, voici la citation du jour. Lupin ne reste en prison que le temps qui lui plaît et pas une minute de plus. Elle est de Maurice Leblanc, Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de la radio altitudefm.com et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale fncta-midipi.fr. Si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone, allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité joué, mise en scène éclairée et sonorisée par des passionnés de théâtre. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.